La chose qu'on peut dire, Marie-France, c'est que quand il y a un congrès ou enfin un rassemblement de Québec solidaire, on s'ennuie pas.
Ouais.
Parce que ça peut aller d'une surprise à l'autre.
En fait, c'est
même quand on est membre du parti.
Oui, exactement. Il y en a qui ont vécu ça en fin de semaine. C'est un peu comme les congrès du Parti québécois dans le temps où il y avait, où on sortait la coutellerie et tout et tout.
C'était et les couteaux aussi.
Exactement.
Pas seulement la coutellerie, mais quelques couteaux.
Ouais, ouais, ouais. C'était quelque chose à observer comme analyste. Mais donc, non, c'était pas une si grande surprise que ça, parce que ça se préparait. Il y a deux semaines, il y avait eu une rencontre préparatoire où les deux options étaient présentées, la A étant l'option Bouchard-Taylor, le compromis Bouchard-Taylor, et la B étant celle qui a été adoptée par le Conseil national, c'est-à-dire l'ouverture totale, l'interdiction d'interdire, en quelque sorte. Et la position Bouchard-Taylor, je te le disais, c'était la position traditionnelle de Québec solidaire. En 2013, dans un congrès, ça avait été adopté. C'était donc la position de Françoise David, d'Amir Kadir, ouais. les pères et mères fondateurs presque de Québec solidaire. Et c'est en quelque sorte vraiment la fin de cet héritage qui a été signé en fin de semaine. Et il faut dire aussi que Québec solidaire s'est placé, là je ne sais pas s'il faut dire, Paul, ou à gauche ou à droite, en tout cas à l'extrême quelque chose du Parti libéral qui était déjà très libéral justement en matière de laïcité.
Mais c'est la députée Rouba Ghazal qui a fait sauter la banque, comme on dit,
oui.
Quand elle a ouvert la porte, mais complètement, c'est-à-dire aucune restriction, elle ouvre la porte au niqab, à la burqa dans les services publics, au point où Gabriel Nadeau-Dubois... Oui. A dû rabrouer la députée.
Ah, il était dans une drôle de position. Emmanon Massé aussi, puis on les a entendus en entrevue ce matin, entre autres Gabriel Nadeau-Dubois chez Paul Arcan. Ils étaient dans une drôle de position, les co-porte-parole, parce que Gabriel Nadeau-Dubois a dû rabrouer donc Rouba Ghazal, mais en même temps, en entrevue, il bottait en touche. Il disait que tout ce qui était important, au fond, c'était l'environnement, puis qu'en parlant de la laïcité, on s'en allait dans une fausse direction. Les deux, visiblement, n'étaient pas à l'aise, n'étaient pas maîtres de leur discours. Et l'aile parlementaire, donc, le conseil a été vraiment dominé par, certains disent, des groupuscules d'extrême-gauche au sein de Québec solidaire, mais en tout cas par l'aile militante très solide.
Je veux juste te dire, avant que tu continues, j'ai des amis membres de Québec solidaire qui sont allés en fin de semaine et ils étaient de l'option de Françoise David.
Exactement, l'option A, oui.
Ils n'ont pas aimé la façon dont ça s'est fait. Ils sont sortis déçus.
J'en connais aussi.
Déçus.
Et c'est vraiment les pragmatiques contre les militants dorénavant.
Oui,
il y a vraiment un clivage. Tu as tout à fait raison, ça s'est concrétisé en fin de semaine. Il se dessinait, je te dis, entre autres, il y a deux semaines, ça se dessinait, mais là, ça s'est concrétisé. Ce groupe très doctrinaire qui emmène très large au sein du parti. Et c'est quelque chose de majeur, non seulement la rupture avec l'héritage de Françoise David, mais rupture certainement avec une part de l'électorat de Québec solidaire. Beaucoup de gens ont voté le 1er octobre pour Québec solidaire pour l'essayer, en quelque sorte, un parti bienveillant, un parti humaniste, féministe, de gauche. Et là, le parti vient d'un coup de se radicaliser ou de montrer son côté radical qui était là aussi, beaucoup plus dur, beaucoup plus extrémiste. Et donc, il y a ça. Une autre observation, Paul, bientôt, les extrémistes de Québec solidaire vont traiter de xénophobes, d'islamophobes, de racistes, tous ceux et celles qui avaient la même position que Québec solidaire jusqu'à samedi.
Exactement.
Ils vont devenir infréquentables.
Et,
donc,
et
c'est
que
fou,
plusieurs,
ça.
Et que plusieurs membres et supporters qui se reconnaissent pas, qui vont se faire taxer d'être des xénophobes, des racistes.
Tout à fait.
C'est ça le problème, là.
Exactement. Donc, il y a vraiment quelque chose de particulier qui s'est passé là. Le politologue Éric Montigny faisait remarquer sur Twitter une autre affaire bien intéressante. Québec solidaire se dit parti indépendantiste. Et là, le multiculturalisme qui arrive très fort avec cette nouvelle option de Québec solidaire, c'est comme, dit-il, un cheval de Troie au sein du mouvement souverainiste. Mm-hmm. Ceux qui croyaient à l'indépendantisme de Québec solidaire viennent de prendre une moyenne débarque avec cette position, cette option B. Et la dernière chose que je dirais sur ce Conseil national de la fin de semaine, c'est que la CAQ n'a maintenant plus de relais à l'Assemblée nationale qui viennent de l'île de Montréal, sauf Chantal Rouleau dans Pointe-aux-Trembles, pour faire avancer sa position. Tous les députés de l'île de Montréal, qu'ils soient de Québec solidaire ou libéraux, n'appuieront pas le projet de loi 21. C'est particulier parce que le projet de loi 21, en grande partie, c'est à Montréal qu'il va s'appliquer dans les faits.
Mais j'espère que tu n'es pas surprise, on en avait parlé toi et moi la semaine dernière. Il y a un caractère régional tellement fort sur cette question.
Absolument.
Très, 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 très fort. On n'en parle pas souvent.
Des lignes de fracture qui se sont concrétisées ce week-end. Laïcité, multiculturalisme, jeunes, plus vieux, Montréal, région, francophone, non francophone, élite, peuple, entre guillemets. Le Québec vit vraiment des moments tout nouveaux en politique. Mmh. Ces lignes de fracture-là, il y a 5-6 ans, on ne les voyait pas de manière aussi claire et aussi intense.
Il n'y a pas si longtemps, ça se résumait à séparatiste ou fédéraliste.
Tu as parfaitement raison.
C'est ça. Là, c'est beaucoup plus complexe et nuancé.
Oui. Nuancé. Je comprends ce que tu veux dire, mais oui, pas nuancé dans les faits. Ouais.
Non, pas dans les fesses, ça, je voulais dire.
Ben oui.
17h30, je l'ai regardé en direct à la télévision, un peu comme un président américain. Il a fait un discours à la nation, François Legault.
Discours à la nation, deux minutes et demie.
Il ne
fallait pas cligner des yeux.
Non.
Et c'est particulier parce que ce n'était pas en direct, ça avait été enregistré la semaine dernière, diffusé sur le site Internet du premier ministre et sur Facebook. Il était assis à un bureau, drapeau du Québec derrière lui, s'adressant directement aux Québécois. Il y avait aussi une pleine page dans le journal ce matin et c'était très drôle parce que deux ordinateurs sur son bureau et on le voit écrire à la main.
c'est bonne observation. J'ai remarqué ça. J'avais pas remarqué.
Sur Internet plutôt qu'à la télé, donc plus moderne, mais aussi moins officielle, moins grave dans son intention que s'il avait réquisitionné du temps d'antenne. Un exercice très rare, effectivement, pour un premier ministre au Québec et au Canada. Il y a Stephen Harper qui l'avait fait quand le tireur était intervenu au Parlement. Paul Martin qui essayait de sortir du scandale des commandites. Jacques Parizeau pour parler d'indépendance. Et en général, les chefs d'État font ça dans des moments solennels, des moments graves, des moments décisifs, des moments que le peuple attend, de la même manière que, par exemple, les Français attendaient qu'Emmanuel Macron se prononce enfin sur les Gilets jaunes. Alors qu'ici, il n'y a pas d'émeute dans la rue. François Legault sort très régulièrement les chiffres. La population est derrière lui dans ce projet de loi-là, même si c'est un projet de loi extrêmement clivant, on l'a vu avec Québec solidaire, mais la population est derrière lui. Il n'y a pas de situation qui fait craindre pour la sécurité de la population. Alors, pourquoi le premier ministre croit-il que ce moment-là est fondateur, décisif? Il tenait certainement à faire passer son message sans filtre, quoiqu'il n'a rien dit de nouveau par rapport à son ministre Simon Jolin Barrette. Peut-être parce que il prévoit que ça va être difficile en commission parlementaire, qu'il va y avoir de l'opposition. Donc, un moment très particulier, mais ce que je retiendrai, c'est cette phrase clé qu'il a prononcée dans son court texte de 2 minutes et demie. Il dit à la fin, c'est comme ça qu'on vit au Québec. Et ça, c'est particulier, Paul.
Je vais le citer, là, si tu veux, parce que ça m'a frappé.
Oui.
Ça fait plus de 10 ans qu'on débat des signes religieux. Il est temps de fixer des règles parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit.
C'est très péremptoire et c'est des choses que tout le monde, toi, moi, nos auditeurs, avons entendues dans des conversations. Ben, c'est comme ça qu'on vit au Québec.
Ouais.
À Rome, fait comme les Romains. Et dans la bouche d'un premier ministre, c'est vraiment spécial. Ça réfère à un certain bon sens, à quelque chose d'indiscutable, de péremptoire. Si ça ne fait pas votre affaire, ben c'est dommage pour vous. C'est ça qui est
Mais moi, je suis certain que
ça
plaît.
Ça veut dire.
Ça doit plaire beaucoup, non seulement à sa base électorale, mais également à cette majorité qui a répondu au sondage en disant qu'ils étaient favorables à cette loi, ce projet de loi 21 sur la laïcité.
Oui, bonne observation. Mais en même temps, reconnais que ce n'est tellement pas un discours habituel, des mots habituels
ça,
que
sûr.
Tu entends dans la bouche d'un chef d'État, d'un premier ministre québécois ou canadien. C'est tout à fait nouveau. C'est très direct. C'est vraiment sans filtre. Ça va certainement plaire beaucoup à sa base. Mais je te dis, on vit vraiment une époque en ce moment en politique québécoise tout à fait inédite.
J'en l'écoutais, comme tu dis, ça n'a pas duré longtemps, mais quand j'ai entendu cette phrase-là, j'ai dit là...
Un petit électrochoc. Hein?
Un petit électrochoc. Ouais. Merci beaucoup, Marie-France.
À demain.
Et à demain.